Frère François m'a envoyé un message ce matin. Il revient dimanche matin. Le programme a un peu changé. Il revient donc dimanche matin. On va prier. Père très saint, nous te disons merci pour l'occasion de nous donner encore de nous rassembler ce soir. Après avoir vaqué à diverses occupations, Père, nous venons, ô Dieu, à tes pieds pour être instruits, pour être corrigés, pour être encouragés. Pardonne nos offenses, Père, ô Dieu, et accepte-nous en ta présence pour nous conduire, nous éclairer. Que le Saint-Esprit, Père, illumine les yeux de nos cœurs pour saisir les vérités profondes, Père, et les trésors cachés, ô Dieu, dans ta parole. Nous avons besoin de toi et de chacun, Père éternel, de nous, à saisir ces choses, Père éternel, et surtout à vivre par elles, Père. Sois béni, sois loué, Père, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du tabernacle. Je parle souvent du tabernacle, mais le tabernacle est la clé pour saisir les vérités profondes de la Bible. Le tabernacle, c'est un modèle que Dieu a donné, modèle du tabernacle d'en haut. Et à partir de ça, on peut voir pas mal de choses. Le tabernacle peut être comparé à la maison, le tabernacle peut être comparé à une usine, le tabernacle peut être comparé à un homme et tant d'autres réalités. Et pour vous donner un peu, je dirais, une idée de ce que c'est, ce n'est peut-être pas ce que Moïse avait construit, mais ça y ressemble. Et donc, je voulais que Fabrice projette, si c'est possible, une petite vidéo de 9 minutes pour voir un peu ce que c'est le tabernacle. Et on continuera juste après la petite vidéo. Je ne sais pas si la vidéo est prête ou pas. Tu peux éteindre, s'il te plaît. C'est...
Alors là, nous sommes dans le parc. Et ici, en fait, tout le peuple en entier pouvait venir apporter des sacrifices ici, dans le parc. Et pourquoi donc on a appelé ça le Mishkan? Il faut savoir que Mishkan, ça se dit en français le lieu de la rencontre. Donc c'est un lieu où le peuple venait rencontrer Dieu. Alors qu'est-ce qu'on retrouvait dans le parvis? Deux choses, l'autel des sacrifices, et après l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, d'ablution pour les souverains sacrificateurs.
מי ספר בראשית, אלוהים רוצה להיות בנוכחות של אנשים, הוא רוצה שאנשים יכירו אותו, שהוא יכיר אותם.
À partir du livre de la Genèse, Dieu a toujours voulu que les hommes le connaissent, et il a voulu aussi se révéler aux hommes.
אבל יש בעיה.
Mais il y a eu un problème.
בבן אדם יש חטא.
Il y a le péché dans l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit quand on entrait à l'intérieur donc du parvis? La première chose que les enfants d'Israël voyaient, c'était l'autel des sacrifices pour rappeler qu'il y avait un problème pour aller à la rencontre de Dieu, c'était le péché. Et même dans l'Ancien Testament, il est dit en fait que l'âme de toute chair est dans le sang. Et c'est pour ça en fait que c'est un symbole en fait. L'autel avait quatre coins et aux quatre coins on devait mettre le sang de la victime qui était sacrifiée pour rappeler aussi donc le péché. Alors là on voit la cuve des reins. Alors, l'un des seuls ustensiles en fait dans le tabernacle où Dieu n'avait pas donné de mesure, de dimension, c'était la cuve des reins.
בכיור היו משתמשים כדי לשטוף את הידיים ואת הרגליים לפני הכניסה לקודש ולפני הקרבת קורבנות, לפני עבודת הקודש.
Alors là, c'était cet ustensile était utilisé uniquement pour les sacrificateurs qui, avec ce bol, devaient prendre de l'eau et devaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint et avant même d'officier pour opérer les sacrifices. Ils devaient aussi se laver les mains. À partir de là, seulement les sacrificateurs pouvaient se rendre à l'intérieur du lieu saint. Alors là, maintenant, on se tient à l'entrée du lieu saint. Donc, on reprend parvis. Dans le parvis, le peuple pouvait s'y rendre, d'accord ? À partir de là, seulement les sacrificateurs. Alors là, nous sommes à l'intérieur du lieu saint. On retrouvait trois ustensiles à l'intérieur du lieu saint. Le premier ustensile se trouvait à gauche, donc on a le chandelier d'or. En face du chandelier, on avait la table des pains de proposition. Et en face, juste à l'entrée de l'autre pièce que vous allez voir tout à l'heure, on avait l'autel des parfums. Alors là, on voit les habits, comment les sacrificateurs ils étaient habillés. Et là, on voit comment le souverain sacrificateur, ou si vous préférez, le grand prêtre, comment il était habillé. Alors, lui, le souverain sacrificateur, il avait au fond donc les mêmes vêtements et il avait quatre autres vêtements par-dessus.
Alors, tzitz, zahav, la metzer, shakotu, kodesh, la Adonai.
Il avait donc la tiare, une tiare en or qui était marquée Kodesh le Adonai, sainteté à l'éternel. L'éphod, on avait donc 12 pierres qui reprenaient en fait le nom des 12 tribus d'Israël.
Regarde, je t'aime ce chemin de l'Israël. על כל אבן בנפרד היה שם אחד, ועל פה רק שתי אבנים עם שש ושש.
Chaque pierre avait un nom, le nom d'une tribu, alors qu'ici, on avait six noms d'un côté, six noms de l'autre.
ובעצם הלובש את זה כבר מייצג את עם ישראל, וזהו הלובש את זה, הוא בא לייצג את עם ישראל, להביא אותם לפני אדוני.
Il devait, c'est lui, en fait, ce symbole, ça veut dire qu'il avait, lui, et aussi la responsabilité de représenter le peuple d'Israël auprès de Dieu. Alors là, on se trouve maintenant à l'intérieur du lieu très saint, ou à l'intérieur du Saint des Saints. À l'intérieur donc du lieu très saint, il y avait trois choses. L'Arche de l'Alliance. Alors, à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait trois choses. On avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un bol où il y avait de la manne. Et donc, comme vous l'avez vu, important de rappeler qu'à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, il y avait les deux tables de la loi d'où étaient écrits les 10 commandements. Okay. Alors, maintenant, sur l'Arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire étaient représentés deux anges, deux chérubins. Dieu, il avait dit à Moïse, quand tu viendras dans le tabernacle, c'est entre les deux chérubins que je me révélerai à toi. Il y a des choses très importantes à dire pour ceux qui connaissent les écrits du Nouveau Testament.
Ok. כמו שאמרנו לפני זה, אלוהים רוצה להיות שאנשים שהוא מכיר, הוא רוצה שהם יכירו אותו, והוא רוצה להיות איתם בהתחברות, הוא רוצה להיות איתם במערכת יחסים.
Alors encore une fois, il faut replacer en fait ce qu'on voit ici, à faire un parallèle avec les écrits du Nouveau Testament et cette volonté qu'a Dieu de se révéler aux hommes et de vouloir aussi que les hommes le connaissent en tant que tel.
אבל אי אפשר בגלל החטא.
mais c'est difficile à cause du péché.
לכן הקורבן של ישוע חיפר על 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 החטא של של האדם כדי שנוכל לבוא חזרה להתחברות עם אלוהים.
Et ce qui était possible dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux, dans le Nouveau Testament, il y a un parallèle qui est fait avec le sacrifice de Jésus qui nous donne accès auprès de Dieu.
לכן כתוב בבית מקדש שהפרוכת, מה שהפרידה בין השכינה של אלוהים לבין שאר האנושות, היא נקראה בעצם מלמעלה למטה. והדרך חזרה לאלוהים בעצם נפתחה.
La Bible dit que après le sacrifice de Jésus, quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, la Bible dit que la caporette, donc ce tapis qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré du haut en bas. Et donc c'est un symbole où Dieu montrait par là qu'au travers du sacrifice de Jésus, que la route était ouverte, qu'il y avait un accès libre maintenant à tous, pour tous les hommes. Alors on voudrait remercier notre guide Ben qui nous a fait une très belle exposition, très belle exposé sur le tabernacle.
Bien, c'était pour montrer un peu comment était le tabernacle. On va lire dans Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je disais tout à l'heure que le tabernacle est la seule entité que Dieu a donnée de sa propre autorité comme modèle. Cela, il l'a donné dans tous les détails qu'il faut. Cela montre l'importance des tabernacle, parce que le tabernacle est en même temps le type du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a donné le tabernacle avec des détails bien précis, les mesures, les matériaux qu'il fallait utiliser, comment ça devait être structuré dans l'enceinte du tabernacle. Cela revêt une importance capital dans la Bible, car tout dans l'Ancien Testament tournait autour du tabernacle. Comme aujourd'hui, tout tourne autour du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le tabernacle de Dieu. On a lu tout à l'heure, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans Jean 1, 14, il est dit, Jean 1, 14, au commencement était la parole. Et la parole, au premier verset là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Au 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans certaines versions, on dit « Et la parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. » Dieu savait que s'il nous parlait directement des choses ou des réalités spirituelles, nous aurons du mal à les saisir. Aussi va-t-il nous donner des types de ces réalités spirituelles, des réalités, des choses ou des réalités physiques que nous pouvons saisir plus concrètement, des réalités palpables. L'homme a du mal à saisir les réalités qui lui paraissent comme abstraites. par exemple, les réalités spirituelles, il est difficile à les saisir. C'est pourquoi Jésus-Christ devait naître comme un homme, vivre comme un homme et mourir comme un homme. Car il était un homme réconciliant, il était l'homme réconciliant, l'homme avec Dieu. Malheureusement, il était mal compris dès qu'il parlait des choses spirituelles. Il était mal compris dès qu'il commençait à parler des choses surnaturelles. C'est pourquoi il parlait souvent en parabole, en image, pour se faire comprendre des hommes. Je disais que l'homme veut quelque chose de concret. Dès que les choses s'élèvent à un niveau plus élevé, il a du mal à les saisir. C'est pourquoi croire au miracle n'est pas chose facile. Il faut la grâce de Dieu. Il y a aujourd'hui même des gens qui ne croient pas que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec, ou que Jésus-Christ est ressuscité, ou encore que Dieu guérit aujourd'hui. Parce que ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Et il y a, je crois que c'est Frère Branham qui en parle, il raconte une histoire dans un des messages. C'était l'histoire d'un enfant qui avait peur des éclairs. Je vais lire ce qu'il avait dit. C'est Frère Branham qui dit, « J'ai dit, nous ne pouvons pas. Et ces gens qui viennent auprès de moi pour ces choses, ils viennent parce qu'ils ne voient pas dans cette autre dimension ou plutôt dans cet autre monde. Et ils veulent savoir. Et ils viennent. » J'ai dit, « C'est exactement ce que les gens faisaient. Regardez le fils d'Isaïe qui était venu auprès du prophète Samuel pour savoir où se trouvaient les mules. Vous voyez, j'ai dit, vous ne semblez pas comprendre. J'ai dit, à propos, cela me rappelle une petite histoire. Et c'est une petite histoire amusante. Lui qui peut être vous stimulera. J'ai dit, je me souviens d'une histoire, il y avait une fois un foyer chrétien. Et un soir survint un orage. Ils avaient là un petit garçon. Et ce petit garçon avait un peu peur de l'orage. Sa maman lui a dit, elle a dit, « Junior, monte à l'étage et va au lit maintenant. » Alors, le petit, pour ainsi dire, a gravi en quelque sorte les marches sans problème. Et il avait un peu peur des éclairs qui brillaient ainsi que des tonnerres qui grondaient. Peu à peu, il a crié, « Oh maman !» Celle-ci a dit, « Que veux-tu, Johnny ?» Il a dit, « Monte ici dormir avec moi. » C'est l'enfant qui répond. Ainsi, elle s'est dit qu'elle monterait pour le réconforter. Elle est donc montée et s'est couchée sur le lit à côté de lui. Elle a dit, « Johnny, tu ne devrais donc pas avoir peur. » Eh bien, nous sommes une famille chrétienne. Nous savons que Dieu est toujours présent pour nous protéger. C'est ce que nous croyons. Et elle a dit, Johnny a dit, oui maman, je le crois. Mais quand ces coups de foudre frappent de si près, je veux un Dieu couvert de peau. Hein, il veut quelqu'un de concret. Pas dire que Dieu me protège, non. Il veut quelqu'un qui soit là, qui le protège. Ainsi, vous savez, je pense, nous les adultes, on dirait que nous éprouvons les mêmes sentiments, vous savez, frère Lee. Je vous entends rire là-bas. Je vais d'un Dieu couvert de peau. J'ai dit, après tout, Dieu n'est-il pas couvert de peau quand il fut manifesté en Jésus-Christ? Les prophètes n'étaient-ils pas appelés des dieux couverts de peau? Assurément, ils l'étaient. J'ai dit, vous voyez, vous ne comprenez pas. C'est pour montrer qu'on veut des choses concrètes. On veut quelqu'un qui soit là pour nous protéger. Dire que Dieu protège, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'homme a besoin de quelque chose qui le rassure physiquement. Nous savons que les choses spirituelles existent, mais nous avons parfois besoin des choses que nous pouvons toucher ou des choses ramenées à notre réalité terrestre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré. Le tabernacle terrestre de Moïse est un type, une représentation du tabernacle céleste. Ainsi, nous savons qu'au ciel, il y a un tabernacle. Hébreu 11, verset 3, il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ceci est très important. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais c'est à partir des choses invisibles. La parole, au commencement, Dieu créa, il dit que la terre soit et la terre fit, que la lumière soit et la lumière fit, ainsi de suite. Donc, on voit que c'est par la parole, et la parole, personne ne la voit. Personne ne la voit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Le tabernacle aujourd'hui n'existe plus. Il a été détruit parce que c'était des choses passagères. Na, tu peux projeter la première image, le tabernacle? Donc, c'est ce qu'on venait de voir. Il y avait à l'entrée l'autel des holocaustes, c'est là qu'on sacrifiait. Il y avait la cuve où les sacrificateurs se lavaient pour entrer soit dans les lieux saints ou aller servir à l'autel. Et ensuite, on rentrait dans les lieux saints. Ça, c'est ce qu'on appelle le voile extérieur. Donc ici, il y avait le voile extérieur, l'entrée en fait du lieu saint. Et l'entrée du lieu très saint, c'est le voile intérieur. Donc, on a ici la table des pains de proposition. C'est là où se trouvaient les douze pains sur la table, qui étaient renouvelés tous les 7 jours. En face, il y avait les chandeliers. Et juste devant le lieu très saint, il y avait l'autel des parfums. Et quand on allait au-delà du lieu saint, on entrait dans le lieu très saint, où on avait en fait l'arche de l'alliance, où il y avait la manne, les bâtons d'Aaron et les tables de la loi. Et ceci est quelque chose de très, très important. On va voir ça pour montrer que Dieu ne fait rien pour rien. Il y a toujours une raison. Et toutes les maisons qui sont construites, les maisons des hommes qui sont construites sous ces modèles. Merci. Ils sont construits sous ces modèles. Toutes les maisons, quelles qu'elles soient, elles sont construites sous ces modèles. On a toujours, si vous voulez, ici, c'est là où on offre les sacrifices. Ça paraît être la cuisine. On a le four, ou si vous voulez, le réchaud pour préparer. Et on a l'évier, où il y a l'eau, pour nettoyer les aliments avant de les préparer. Ensuite, on rentre dans les salons. Dans les salons, c'est le lieu de vie. Et le lieu de vie, on a une table à manger. La lumière, on a besoin de lumière pour éclairer la pièce. C'est pourquoi j'ai mis ampoule. Ensuite, on a, ici j'ai oublié quelque chose, c'est l'autel des parfums. Dans certaines maisons, on appelle ça peau pourrie, je crois. Ou des désodorisants. Il y a maintenant des trucs électriques où on met des... C'est exactement ça. Donc ici, c'est pour diffuser un bon parfum dans la pièce. Ensuite, on rentre dans la chambre. Et dans la chambre, il y a une seule pièce. C'est les lits. Vous pouvez avoir maintenant les armoires, mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous pouvez juste avoir les lits et dormir en paix. Et donc, si vous allez en Afrique, souvent au village, quand vous rentrez dans la parcelle, généralement les gens préparent dehors. Vous voyez ça, ils préparent dehors. Et ici, donc, ça représenterait en réalité la case, hein, la case au village, la case. Donc, les gens préparaient au dehors, et là, la lumière qu'il y avait au dehors, c'est la lumière du soleil. Et c'était aussi pareil dans les tabernacles, c'est la lumière du soleil. L'autel de sacrifices et la cuve étaient au dehors. Ensuite, vous rentrez dans la case ou dans les tabernacles, là, vous avez la lumière, qui est le chandelier qui donne la lumière. Et au village, c'est souvent les lampes à pétrole. Bon, ici en Europe, on a des ampoules, hein, c'est pareil. Ensuite, on a la salle à manger, ou la table pour manger. Et au village, dans certaines maisons, ils ont aussi des produits qu'ils utilisent pour avoir un bon parfum dans la maison. Ensuite, tu rentres dans la chambre. Dans la chambre, au village, généralement, c'est souvent parfois des nattes. Hein. Juste, on met une natte et c'est suffisant. Mais ici, en Europe, ben, on a les cadres du lit, on a les matelas, on a les draps et on a l'oreiller. Et vous pouvez faire une correspondance avec ces éléments qui sont dedans. Oui. Donc, les lits, une seule pièce, tout comme l'arche de l'Alliance, une seule pièce. Et au-dessus du cadre métallique ou en bois, vous pouvez avoir les matelas, vous pouvez avoir les draps et l'oreiller. Donc, si vous voulez penser au tabernacle, pensez à votre maison. C'est très simple. Comme parce que le tabernacle paraît quelque chose de très ancien, donc on n'a pas toujours une bonne représentation. Il suffit juste de penser à la maison et vous avez quasiment toutes les pièces du tabernacle dans votre maison, qui sont représentées dans la maison. Et quelque chose d'autre qu'on peut dire, ça n'a pas été mis ici, mais si vous comptez les colonnes qui étaient mises à l'entrée ici, il y avait 4 colonnes, donc l'entrée, 4, 5, 4. Et ceci, vous pouvez voir que les 4 colonnes ici, les 4, on a déjà vu ça, hein, ça représente généralement la mort, ça représente aussi le monde. Donc, il y avait 4, et ici, il y avait 5. 5 colonnes, donc à l'entrée, il y avait 5 colonnes. Ça peut représenter, les 5 colonnes peuvent représenter la vie, 5, c'est lié à la vie, mais ça peut représenter les 5 ministères. Ensuite, si on va plus loin, ici, il y avait 4. Et si vous vous souvenez, dans la Bible, il est parlé des 4 êtres vivants, là, en haut. Et ici, il y a 4 colonnes. En fait, tout ce qui concerne les tabernacles, les tabernacles donnent une représentation des choses qui sont réelles. Ce n'est pas un mythe. C'est pourquoi le Seigneur a voulu nous donner ça. Aujourd'hui, on va juste parler de la maison. Peut-être la fois prochaine, on parlera de l'homme, hein, de l'homme, pour montrer que l'homme aussi est sous ce schéma ici. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi Dieu l'a donné, parce que le schéma, le modèle est quelque chose qui nous aide à saisir beaucoup de réalités. Mais on reviendra sur ça, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Et donc, au village, comme ici, les 3 pièces se succèdent, souvent au village, mais les 3 pièces se succèdent aussi. Ici, bon, c'est un peu varié, mais ça ne change rien aux réalités qu'il faut la cuisine, il faut le salon et il faut la chambre. Ça ne change rien. Bien. On verra ça, donc je disais pour l'homme, on verra prochainement qu'est-ce que ceci représente pour l'homme? Peut-être vendredi, si on a le temps, on verra ça. Ceci représente quoi? Ça représente quoi? Et la chambre représente quoi pour l'homme? En fait, tout ce que Dieu a créé, il a mis son empreinte dessus. Et donc, on peut facilement retrouver que c'est la marque de fabrique de Dieu. Ouais. Bien. Si on regarde encore plus près, les choses impures ne pouvaient pas rentrer dans les tabernacles. Tout devait être purifié. Celui qui rentrait là était purifié avant d'aller là-bas. Donc ici, c'était le lieu où il fallait se débarrasser de toutes les saletés. Comme à la maison, ben certainement vous avez soit au niveau de la toilette pour vous nettoyer ou au niveau de la douche pour vous laver. Et personne n'aime rentrer chez lui ou faire rentrer quelqu'un avec des saletés. Avec de la boue, par exemple, dans les chaussures. On prend d'abord soin de s'en débarrasser dehors. Et si tu ne peux pas le faire pour ta maison, penses-tu que tu peux le faire pour la maison de Dieu? C'est là qu'est le problème. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec une âme souillée. Ce qui est bien, c'est que Dieu te donne pour te débarrasser de la souillure, des divers moyens. Il y en a plein dans la Bible, hein? Mais j'en ai relevé quelques-uns ici. Dans Hébreux 9, verset 14, je vais lire. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? » Nous voyons ici les sangs purifiés. Dans 1 Jean 1, verset 9, c'est des moyens de purification. Comment Dieu nous purifie? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est un moyen que Dieu donne pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc ici, nous voyons, obéir à la vérité est un moyen de purification. Dans Psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole ?» C'est un moyen de purification, se diriger selon la parole. Il y en a beaucoup, hein, il y a pas, c'est vraiment non exhaustif ce que je vais donner ici. Mais dans Ésaïe 6, 6 à 7, il dit, pardon? Ah, la lumière, désolé, c'est Nats ou c'est Fabrice, je crois, c'est pas grave. Mais l'un des, je suis en train de lire, donc. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Le feu est un purificateur. Bien. Dans Actes 15, verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi est un moyen de purification. Bien. On peut continuer comme ça. La parole, l'eau pure. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il faut donc faire attention à ce que tu fais rentrer dans ta maison. On ne fait pas rentrer n'importe quoi ou n'importe qui dans la maison, car ce que tu fais rentrer a une influence sur toi et sur ta maison. Si tu veux garder ta maison pure, éloigne-toi de tout ce qui peut souiller ta maison. Même les choses qui paraissent bonnes peuvent accaparer de ton temps que tu n'as plus de temps pour Dieu. Ça devient un piège. Dieu avait frappé de mort Nadab et Abihu pour avoir fait entrer un feu étranger dans les tabernacles, alors que Dieu a dit qu'aucun feu étranger ne peut entrer dans les tabernacles. Et si tu es le tabernacle de Dieu ou le temple de Dieu, fais attention à ce que tu fais entrer dans ces temples. On va lire dans Lévitique 10, à partir du verset 1. Lévitique 10, à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aujourd'hui, la crainte a disparu. Hein. Les gens s'approchent de Dieu n'importe comment. Aaron gardant le silence. Moïse appela Michaël, et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » C'était les deux fils d'Aaron qui étaient morts là. Il fallait les amener hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique du camp, dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. » Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. C'est terrible, hein? Aaron ne pouvait pas pleurer son fils, ni ses frères, ses frères ne pouvaient pas pleurer leurs frères. Ça peut paraître cruel, hein? C'est pourquoi nous devons toujours faire attention. Aaron gardant le silence. Pourquoi Aaron, le père de ses enfants, et qui était en même temps souverain sacrificateur, garda silence? Est-ce qu'il s'est reproché de quelque chose? Peut-être qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour empêcher peut-être la chose. ou je ne sais pas s'il n'avait pas bien instruit ses enfants, mais il y avait un problème. Et si c'était le cas, cela veut dire que les responsables doivent veiller à ce que tout soit fait correctement selon l'ordre de Dieu. Tout comme à la maison, c'est la responsabilité des parents de ne pas laisser leurs enfants faire rentrer n'importe quoi dans la maison. Car les conséquences peuvent être graves et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Comme je disais, ici, Aaron ne pouvait même pas pleurer ses fils, ni enterrer ses propres enfants. Quelle douleur cela a été pour lui. Tant que les enfants sont sous votre toit, c'est de votre responsabilité. C'est pourquoi il est important, dès leur jeune âge, de leur montrer la voie droite. Quand il s'agit surtout de l'œuvre de Dieu, il faut être strict, même avec ses propres enfants, car cela y va de votre vie et de la vie de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Père, oh Dieu, pour le modèle que tu nous as donné. Ce modèle, Père éternel, qui nous permet de saisir de grandes vérités. Et nous te prions, oh Père, de nous éclairer davantage et de faire attention à ces choses, Père éternel. Car si ces choses ont été données en type, aujourd'hui nous sommes dans le réel, dans la réalité. Et tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. C'est pour que nous puissions en tirer instruction, Père. Aussi, aide-nous, Père éternel, oh Dieu, à marcher de manière circonspecte, Père éternel, oh Dieu, et à ne pas laisser n'importe quoi, Père éternel, entrer dans nos maisons. Merci pour la grâce qui nous a été faite, Père éternel, oh Dieu, de partager ces quelques moments. Et nous prions, Père éternel, oh Dieu, pour la suite, que tu puisses nous aider, Père éternel, oh Dieu, afin de rentrer encore en profondeur de ces choses. Sois béni, sois loué, Père éternel, oh Dieu. Conduis-nous pour le restant de la journée et sois notre paix et notre force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.